Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois maintenant avec nos chroniqueurs désormais attitrés. Ces chroniqueurs qui forment, disons, comme une petite famille. Ça tombe bien puisque la famille, c'est justement le thème de ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Petite dédicace, dédicace spéciale à Fabien pour toutes nos complicités enfantines. Fabien, on s'est bien amusé, on en a bien profité, c'était le bon temps. Voilà. Alors pour commencer ce rendez-vous compte spécial famille, voici la très belle chronique de Nicolas Martin, peintre et critique d'art et chroniqueur régulier de ce rendez-vous compte et qui consacre son argument au tableau Marguerite au chat noir d'Henri Matisse, un tableau qui date de 1910 et qui représente la fille de Matisse, un tableau dont Nicolas nous fait revivre la création avec grâce sa propre fille de 11 ans, avec une présentation de Cathy France, la femme de Nicolas, la mère de Grâce, spéciale famille, je vous le disais.
Atelier de Matisse à Issy-les-Moulineaux, 1910. La lumière d'automne filtre à travers les grandes fenêtres. Marguerite, vêtue d'une robe sombre, est assise sur une chaise en bois, un chat noir sur les genoux. Matisse, devant son chevalet, ajuste sa palette aux couleurs vives. Entre deux coups de pinceau, leurs regards se croisent.
Bon, je me mets comme hier. Même position sur la chaise jaune.
Oui, j'ai bien avancé. Mais on a encore du pain sur la planche. Allons, reprenons. J'hésite quand même un peu sur le fond. Je pense que je vais le laisser en vert et mettre du rose en bas. C'est bien le rose. Voyons voir. L'équilibre est bon. Le contraste des masses est correct pour l'instant, le cloisonnement est juste, le père Gauguin serait fier. Sinon, on a un bon équilibre sur le vert et le rose qui se complètent de manière assez intéressante. Qu'est-ce que t'es belle dans cette petite robe bleu foncé à bretelles? Elle te va si bien.
Ce chat, j'avais une grande pierre à le tenir.
Mais ne bouge pas comme ça, voyons. Ce chat, lui, a mieux compris l'enjeu que toi, on dirait.
Bah, il a plus de patience que moi, papa. C'est juste lui que tu devrais peindre. Tu ne te fatigues pas, d'ailleurs, à me peindre toujours pareil?
Pareil? Mais non, Marguerite. Chaque jour, je te vois différente. Aujourd'hui, c'est cette lumière sur ton visage, des jolies joues colorées. Tiens, je vais rajouter une petite touche de vermillon. Et puis, il y a tes yeux.
Mes yeux que tu peins en amande, ils ne sont pas comme ça, hein, dis?
Bah, les Byzantins les représentaient ainsi. Et puis, ce ne sont pas tes yeux que je peins. Je peins la couleur de ton âme.
Tu parles comme un poète, maintenant. Moi, je ne vois qu'une robe trop serrée et un chat qui fait sa grosse sieste.
Ah, mais c'est là toute la magie. Cette robe, ces couleurs, elles ne sont pas là pour te contraindre, mais pour exprimer ce que je ressens. Par exemple, j'aplatis la perspective pour que tu sois au centre du sujet. Tiens, ce vert que je mets derrière toi, c'est le ciel avant l'orage. Je vais en rajouter une troisième couche d'ailleurs, pour avoir un effet de transparence.
Et ce rose?
Bah, ta douceur, bien sûr.
Je vois. Ah, mais elle fait mal aux fesses, cette chaise en plus.
Donne-moi un instant que j'ouvre la fenêtre. Bon, enlève ta main de ton cou, s'il te plaît. T'inquiète pas, je mettrai un collier ou un motif, comme d'habitude. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je la peindrai pas, ta...
Et tu crois que les gens verront tout ça? Pas juste une fille avec un chat?
Ok, d'accord, je vais faire une pause. L'art, Marguerite. Ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on devine. L'exactitude n'est pas la vérité. Cette toile, regarde, je te la montre. Elle raconte ta force. Ce chat noir, c'est un gardien. Il est à la fois domestique et sauvage. Il est mon désir de te protéger, mais aussi la nécessité de te laisser grandir. Et ses couleurs autour de toi, bah, elles célèbrent ta résilience face à la maladie, tu te souviens? Toi, tu es au centre, avec ton visage délicatement ovale et tes yeux sombres, calmes, comme une île dans la tempête.
Tu exagères tout le temps, mon papounet. Je suis ta plus belle œuvre.
Non, tu es bien plus. Ta beauté m'apaise et quand je te peins, j'ai l'impression de te protéger, de figer ta vulnérabilité. Je cherche pas à imiter la réalité, tu comprends. Tu es comme un pont entre moi et le monde extérieur. Ces lignes simples, ces contours noirs, la perspective qu'il n'y a pas. Tu as vu mes autres tableaux. C'est ma manière de t'aimer. Puis, plus je réfléchis, plus je pense que je vais tendre vers cette vérité pour aller à l'essentiel dans mon travail à présent.
En fait, si j'ai bien compris, tu parles une partie de toi.
Oui, tu as raison. Mais je peins surtout le regard d'un père sur son enfant. Cet amour nourrit mon travail de manière inépuisable, tu sais. L'art, c'est la vie. Je ne cesse de te le dire. Et toi, Marguerite, tu es comme un miroir de ce qui est essentiel. Je ne cherche pas à cacher cette fragilité. Je la magnifie. Les plus grandes révolutions artistiques naissent parfois de l'intimité. J'en suis persuadée, ma fille.
D'accord. Et si je ne veux pas être fragile? Si je veux être forte, comme maman?
Mais tu l'es déjà, Marguerite, cette cicatrice. Enlève ta main, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas une blessure d'une maladie. C'est une médaille. Et ce tableau, il sera ton armure. Et tu sais, bien après moi, quand les gens le regarderont, ils sauront qu'ici pose une guerrière. Une guerrière aimée d'un amour le plus humble, celui d'un père.
Ah bah voilà, le chat est parti pour de bon cette fois-ci. Mais pourquoi tu as rouvert la fenêtre?
Le vilain, quelle ingratitude envers sa propre postérité. Allez, on reprendra demain.
Marguerite au chat noir, 1910, est bien plus qu'un portrait. En jouant avec les symboles, Matisse transcendra la relation père-fille pour en faire une quête universelle de beauté et de sens. Marguerite, à la fois muse et gardienne, incarnera cet équilibre fragile entre protection et liberté. Et la confiance mutuelle visible dans ce portrait, se transformera en partenariat artistique tout au long de leur vie respective. Marguerite, en sauvegardant les archives de son père après sa mort, perpétuera ce dialogue ininterrompu, manifeste de l'amour paternel intemporel, à travers le prisme de l'art moderne. Matisse et Marguerite, en exposition actuellement et jusqu'au 24 août au Musée d'Art Moderne de Paris. À bientôt dans Argument.
Merci Nicolas, merci Cathy France et Grace, qui porte bien son prénom, on va dire, et qui a joué le rôle de Marguerite dans cette chronique de Nicolas Martin, son père, peintre et critique d'art. Nous sommes toujours bien sûr EDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chroniqueur consacré à la famille. Et comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Saufroy-Paret qui nous propose, selon son habitude, un regard à la fois lucide, tendre et ironique. Aujourd'hui, une chronique avec un très beau chiasme pour titre « Famille sacrée, sacrée famille ».
Famille, famille sacrée, sacrée famille. Lorsque j'entends le mot « famille », une image s'impose à moi, celle de la Sainte Famille, comme au bon vieux temps où j'allais au catéchisme. Jésus, Marie, sa bienheureuse mère, et Joseph, son père adoptif. Son père tout de même, puisqu'il l'a élevé. C'est la famille idéale, des parents heureux, fiers de leur fils, le modèle, le symbole du bonheur, de l'amour. Je feuillette l'album photo de ma famille. Il y a une bonne centaine d'années, un homme, le père, le patriarche, chef de la famille, père nourricier, pose dans un décor de carton-pâte chez le photographe, avec toute sa tribu. C'est touchant. Il veille sur sa fidèle épouse, peut-être décorée de la médaille de la famille française, et sur sa nombreuse progéniture. Image figée du bonheur. La femme, ou plutôt la mère, regarde ses enfants d'un air attendri. C'est elle qui les a mis au monde et qui en prend soin. Les enfants sourient, sans doute parce qu'on les en a priés. La famille idéale. On respecte la tradition. Le père au travail, la mère, véritable grillon du foyer, passe ses journées au fourneau. Avec le temps, la mère est devenue un peu plus femme. Elle reste moins à la maison. Elle commence à penser à elle-même, à travailler. Des enfants sur la photo, bien sûr, mais moins, idéalement deux. Un fils aîné, ah, c'est ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait. C'est lui qui transmettra le nom, le patronyme. Il faut bien que l'arbre généalogique continue à produire des branches neuves. Ensuite, une fille. Le choix du roi, comme on dit. La famille dont on a rêvé. Un peu moins de monde sur la photo, déjà. À cette époque, on joue encore aux sept familles. Le père, la mère, le fils, la fille, etc. Au fil du temps, les cartes du jeu se sont un peu brouillées. La famille traditionnelle ne fait plus recette. Famille monoparentale, homoparentale, famille composée, décomposée, recomposée, surcomposée. Demi-frère, demi-sœur, beau-frère, belle-sœur. Il est parfois difficile de réunir tout le monde sur la même photo. Il n'y a pas toujours assez de place pour tous. Une famille, ce n'est pas seulement une photo, c'est vivant. La famille est le reflet de la société, un microcosme. On vit les uns avec les autres, les uns pour les autres. On s'aime, on se protège, on se cajole, on se déteste parfois. On se chicane, on se jalouse, on se dispute, on s'engueule, on se lance des méchancetés. Et puis, on vide son sac, on oublie tout, on se réconcilie, on efface les vieilles rancœurs, on repart à zéro jusqu'à la fois suivante. Et de nouveau, les vieilles histoires, les vieilles rivalités. Mais finalement, on ne peut pas se passer les uns des autres. Les liens du sang, ça existe, ça ne se rompt pas. Parfois, cependant, ça casse, définitivement. Alors là, ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est comme ça. On peut renier sa famille, mais on ne peut pas effacer les traces qu'elle a laissées en vous. La famille, une sacrée affaire, une sacrée histoire.
Merci Michel. Michel Saufroy paraît pour ce nouvel exercice de style rédigé, comme chaque mois, spécialement pour Rendez-vous compte. La famille, sacrée affaire, sacrée histoire, disais-tu. La famille, ou parfois l'un des enfants, bien loin d'être une chère tête blonde, selon l'expression de plus en plus désuète d'ailleurs, est un véritable pervers sadique, comme le chantait Francis Blanche en 1955 dans « Ça tourne pas rond dans ma petite tête ». On écoute la version de notre ami Thierry Leclerc, comédien et chanteur, fidèle lui aussi de Rendez-vous.
On vient de renvoyer la bonne. paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié « c'est pas juste » et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'étais drôle d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des belles dames toutes nues. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Paraît qu'avec de la poigne on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs. Pour leur arracher les pétales, je sais pas ce que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'étais drôle d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Bêtises.
Nous sommes toujours bien sur IDFM pour ce nouveau rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci à la famille. Alors, on retrouve celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties, Hélène Souhaud, thérapeute et psychanalyste, qui nous présente son œil du psy avec pour thème, bien entendu, le lien parent-enfant dans la psychothérapie. On en a déjà parlé, je crois, Hélène, hein, du lien parent-enfant.
Oui, dans ma toute première chronique diffusée au moment des fêtes de Noël, j'avais abordé le lien parent-enfant sous l'angle du lien qui se distend, du lien qui fait mal, du lien qui se rompt parfois. La bonne dose de lien à trouver. Le questionnement sur le lien parent-enfant est le socle de toute thérapie. De ce modèle originel de la relation à l'autre va découler tout le reste de son existence, soit en identique, soit en opposé. Aujourd'hui, c'est plutôt sous l'angle de l'héritage que j'aimerais aborder la question du lien parent-enfant.
Héritage. Hélène, je ne te croyais pas si vénale pourtant.
Tu aimes bien jouer sur la polysémie des mots. C'est vrai que l'héritage, au sens pécuniaire où tu l'entends, est souvent l'objet de terribles tensions dans les familles, voire de ruptures entre descendants. Mais en réalité, la petite cuillère en argent ou le fauteuil Louis XV ne sont que la partie visible d'un autre héritage bien plus important. Quand l'héritage matériel a été mal préparé par les parents et qu'il se passe mal, c'est parce que la relation entre les parents et les enfants était mal équilibrée, pas équitable. L'héritage matériel n'est que la partie émergée de l'héritage affectif.
Tu peux nous éclairer davantage sur cette notion d'héritage affectif ?
Quand je reçois un nouveau patient pas très au clair avec ce que c'est qu'une psychothérapie, à quoi ça sert, j'utilise souvent la métaphore suivante. On avance dans la vie avec deux valises, l'héritage de papa dans une main, l'héritage de maman dans l'autre. Ça encombre les mains, ça réduit la liberté de mouvement, c'est très lourd car on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les valises qu'on trimballe. Faire une thérapie, c'est poser les deux valises, les ouvrir, faire l'inventaire, trier ce qui est utile, ce qu'on souhaite laisser sur le bord de la route, et remettre tout ce qui nous convient dans une seule valise afin de libérer une main pour faire plein d'autres choses.
Mais j'aime bien l'image de ces deux valises, c'est très parlant en effet, mais alors comment on s'y prend pour ouvrir ces deux valises ?
J'ai découvert dans le livre d'Éric Berne sur l'analyse transactionnelle, un livre qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?», une technique toute simple et assez parlante, le slogan parental. Si votre père portait un t-shirt sur lequel est écrit une phrase exprimant son rapport au monde, quelle serait cette phrase ? On m'a répondu « La vie est une tartine de merde et tu vas en manger tous les jours ». Bon, ça c'était un papa assez pessimiste. J'ai aussi entendu « Marche ou crève ». Le slogan d'une maman, c'était « De toute façon, les choses arrivent, on n'y peut rien ». Ou bien « Tant qu'on se soutient en famille, rien de grave ne peut arriver ». Ou encore « Il y a tellement de choses passionnantes à explorer dans le monde, dommage qu'on n'ait qu'une seule vie ». Nettement plus optimiste cette maman-là. Déjà, arriver à mettre son père et sa mère dans une phrase, c'est un gros travail. La question suivante, c'est « Qu'est-ce que j'inscris sur mon t-shirt à moi ? Quel est mon rapport au monde ?» Il peut être similaire ou opposé à celui des parents, si on est encore coincé dans le sillon parental. Ou tout simplement différent des parents, si on a suffisamment avancé dans son travail pour dessiner son propre chemin.
Dis-moi Hélène, tu invites donc tes patients à juger leurs parents ?
Je me souviens d'une patiente issue d'une famille avec particules qui m'avait dit à la première séance « Hors de question que vous m'encouragiez à m'attaquer à mes parents. La famille, c'est sacré. Elle n'a fait qu'une séance. » On n'attaque pas ses parents. On travaille avec le matériau qui nous constitue l'héritage familial. Il ne s'agit pas de décerner des bons ou des mauvais points à ses parents et d'aller leur demander des comptes dans la réalité. « Tu étais trop dur avec moi, j'ai jamais eu confiance en moi à cause de toi. Tu m'as mis une claque quand j'avais 4 ans, je m'en suis jamais remis. » Ce qui est fait, ça ne changera rien. Les parents font tous des erreurs avec les meilleures intentions du monde, en fonction des éléments qu'ils ont en main et des croyances qui les dépassent eux aussi et qui viennent de plus loin. En revanche, mettre des mots sur l'atmosphère dans laquelle on a grandi, nommer les croyances qui nous ont structurées, c'est très utile pour pouvoir s'en détacher si elles nous pèsent, si elles n'ont plus de raison d'être dans notre vie adulte. Aucun héritage parental n'est parfait, mais c'est formidable qu'on nous ait transmis un terrain à labourer où on fera pousser sa propre existence.
Voilà, merci Hélène, Hélène Souhaud, pour ce nouvel œil du psy sur le lien parent-enfant dans la psychothérapie. Bon, à bientôt Hélène et continue à ouvrir l'œil surtout. Nous sommes toujours bien sur IDFM, à l'écoute de ce rendez-vous conte spécial famille. Alors après la petite Marguerite au chat noir et son père Mathis, présenté par Nicolas Martin, et la famille Sacrée Affaire, Sacrée Histoire de Michel Sauffroy-Paré, voici revenu un autre de nos chroniqueurs, Gérard Poêtre, qui nous raconte à son tour une drôle d'histoire familiale. Bonjour Gérard.
Bonjour. Est-ce que notre lieu de naissance peut avoir une influence sur notre existence ? Par lieu de naissance, j'entends non pas une ville, Paris, Rome, Charleville, Limoges, ni un pays, mais un lieu insolite où la naissance se serait involontairement produite. Une cabane en forêt, une arène de cirque, une gondole. Les scientifiques diront certainement que ça n'a pas d'influence, que la mémoire ne peut pas revenir sur les circonstances de la naissance. Mais peut-être qu'inconsciemment, une empreinte demeure. Peu importe la part de vérité et de fiction, je vais vous conter l'histoire d'un être né dans un château fort. Je suis né dans un château fort. Nous n'aurions pas dû prendre ce risque. La grossesse de ma mère était proche de son terme, mais mon père était passionné d'histoire médiévale. Chaque année, une visite de château fort s'imposait donc le 21 décembre. On ne pouvait pas déroger à cette date, car c'était le solstice d'hiver, la nuit la plus longue, mais surtout, pour lui, la naissance du soleil. J'appris plus tard que dans notre famille, ce jour de fête remplaçait Noël. Les autres membres de la famille avaient beau protester, les invitations, les cadeaux étaient datés du 20 décembre à minuit. Nous étions donc les seuls à réveillonner le soir du 20, et non du 24. Le lendemain était consacré à la visite d'un nouveau château fort. Le temps était assez froid. Il avait gelé la nuit précédente. Malgré tout, mon père voulait se promener le long des douves. Tout à coup, ma mère glissa. Elle se retrouva dans l'eau du fossé, ne se retenant qu'à une roue à aube, heureusement immobile. Mon père et mon jeune frère la tirèrent prudemment hors de l'eau glacée. Je n'avais pas précisément envisagé de naître ce jour-là, mais je perçus le choc de ce plongeon comme une injonction à sortir. Ma mère fut emmenée dans une des tours de garde du château, allongée sur un lit médiéval étriqué et poussiéreux. Mes cris résonnèrent dans cet édifice presque vide. Ils effrayèrent toutes les personnes présentes et quelques chauves-souris qui s'envolèrent. Ils me prirent pour un animal sauvage, alors que ce n'était que l'effet du volume de cette tour haute et froide. Ce qui me gêna, au-delà de l'écho de mes propres cris, c'était la sensation que l'eau gelée des douves courait sur mon corps. Il ne s'agissait probablement que de gouttes imprégnées dans les vêtements de ma mère, mais je me sentais transpercé. Nous sommes ensuite rentrés assez rapidement sur l'insistance de ma mère et nous avons retrouvé la chaleur du foyer. Elle avait à peine retrouvé ses esprits que mon père se mit à pleurer à chaudes larmes. Regrettait-il de nous avoir embarqués dans cette expédition qui aurait pu mal finir ? Non, c'était des larmes de joie. Peut-être la joie de ma naissance, mais surtout, j'étais né dans un château fort. Il ne l'avait même pas rêvé. C'était la réalité du moment crucial du choix de mon prénom. Il s'imposa encore. Je me prénommerai Joël. Pourquoi ce choix exclusif ? Demanda ma mère. Parce qu'à l'époque médiévale, Yule, autrement dit Joël, c'est le jour où l'on fête la naissance du soleil, le 21 décembre. Ma mère n'avait pas particulièrement apprécié les conditions de ma naissance. Sa santé était restée un peu délicate. Quant à moi, je rechignais à prendre des bains. Je me mettais à protester à la vue d'une bassine ou d'une cuvette remplie d'eau. Et je ne pouvais boire que de l'eau tiède, sinon je la recrachais. À l'école, lorsque l'institutrice a abordé le Moyen-Âge, elle a voulu nous motiver en nous présentant le Moyen-Âge en BD. Dès la deuxième page, apparut un château fort. Je ne pus réprimer une grimace face à cet édifice grossier, inesthétique, lourdeau de mon point de vue. Un frisson parcourut mon dos sans que je sache vraiment pourquoi. Ensuite, elle parla des personnages célèbres de l'époque. Elle cita des héros des croisades. Au nom de Godefroy de Bouillon, je fus effrayé. Je sortis de la classe en courant et me réfugia dans un des recoins sombres du bâtiment. Ma mère comprit immédiatement d'où venait mon attitude en entendant ce nom et prit ma défense. Ce fut encore l'occasion d'une scène de ménage sur le même sujet. Plusieurs années passèrent dont l'univers médiéval était totalement exclu. Je m'installais dans l'existence. Au fil des années, la vie urbaine me pesait de plus en plus. Une collègue, avec laquelle une relation amoureuse se construisait peu à peu, avait les mêmes sensations que moi. Nous ne pouvions pas vivre ensemble à cause de la petitesse de nos appartements. Les canicules successives nous rendaient la vie difficile aussi bien dans nos bureaux que dans nos logements. La nature sauvage nous manquait. Le déclic fut l'ouverture d'une nouvelle filiale de la société où nous travaillions. Nous avons demandé à être mutés sans savoir où nous pourrions habiter. Ma compagne se lança rapidement dans des recherches immobilières. Je faisais confiance à ses compétences pour trouver des affaires intéressantes. Mais les prix étaient au-dessus de nos moyens, sauf si on acceptait des travaux de rénovation. Un soir, elle revint enthousiaste. J'ai découvert une demeure très originale. Beaucoup d'espace, pas de voisinage. On pourrait presque y vivre en autonomie. Mais il y a beaucoup de travaux à faire. Contrairement au rituel moderne, elle n'avait ni photo ni selfie du lieu pour me laisser la surprise de la découverte. Elle me conduisit sur les lieux de son enthousiasme. Au bout d'un chemin pierreux, chaotique, caché derrière un bois de bouleau, apparut alors un château fort. Ou plutôt un morceau de château accompagné de ruines. Ce ne fut pas ce qui me créa le plus d'émotion. Autour de l'édifice, des restes de fossés, dans lequel un fond d'eau stagnait parmi les effondrements de roches, me rappelèrent aussitôt les douves de ma naissance. Je poussai un cri d'effroi. Face à la sidération de ma compagne, je lui racontai mes déboires originels avec les douves. Au moment d'envisager les travaux, je lui fis promettre de combler le fossé pour en faire un jardin circulaire. Plus tard, notre enfant se moqua de notre aménagement. « Ce n'est pas un vrai château fort, il n'y a pas de douves. »
Cruel destin d'un château fort revisité dont les douves sont comblées. Merci Gérard. Bah écoute, on te retrouvera de toute façon à la rentrée pour tes fameuses chroniques du chat Moritz, qui n'était pas le cas aujourd'hui.
Non, Moritz était en pause.
Ainsi se termine notre sixième et dernier rendez-vous compte spécial chronique de l'année, consacré ce mois-ci à la famille, à retrouver en podcast bien sûr sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Nicolas, Michel, Gérard, Thierry, Hélène et Marine. On vous retrouvera avec grand plaisir à partir de septembre. Et quant à moi, Didier, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte sur IDFM, évidemment consacré à l'association Zaza Kelly qui aide les enfants de Madagascar.